La bande du jeudi. La bande du jeudi.
C'est la fin de la QV 2025-2026 pour le HC Ajoie. Le sacre de Sierre en Swiss League permet aux Jurassiens d'éviter un barrage de la peur contre la Chaux-de-Fonds et de s'assurer une sixième saison dans l'élite du hockey suisse. Tout cela malgré une défaite sèche 4-0 en play-out contre Ambri-Piotta. On reviendra sur cet exercice très décevant avec le président Patrick Auert qui est notre invité et avec qui on parlera bien sûr aussi du futur.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison. Salut Yann, salut Rafi.
Salut Michel.
Salut tout le monde.
Content d'arriver au bout ?
Franchement, oui, content parce que ça a été quand même une saison éprouvante pour tout le monde, et également pour les observateurs. Donc ouais, il y a une part de soulagement avec cette conclusion.
Ouais, on a envie de tirer un trait sur cette saison et puis profiter de l'été pour repartir, on espère, sur une saison prochaine qui sera bien meilleure.
Salut Patrick.
Salut Michel.
Merci de nous accorder ce temps. Toi aussi, content d'en finir. Soulagé, surtout, d'en finir.
Alors, soulagé, bien sûr, mais très, très content d'en finir et puis de repartir sur de meilleures bases et puis de parler du futur et d'oublier le passé.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Avant de parler du futur, on va quand même... malgré tout, se replonger un peu dans le passé. Le bilan, il est ce qu'il est, hein, Patrick. Hein, 43 défaites, 13 victoires sur l'ensemble de la saison, play-out compris. On l'a bien compris, on l'a bien lu aussi et entendu à la radio ces derniers jours. Le bilan est triste. Vous avez même utilisé le mot de catastrophique, hein, au HCA. À quoi finalement ce bilan est-il dû, selon toi ?
Mais c'est difficile à dire, mais prioritairement, je pense qu'on est parti dans la saison avec beaucoup, beaucoup trop de blessés. Ça nous a quand même passablement gêné dans les premiers résultats, notamment de la part de nos étrangers. Et puis, la mayonnaise n'a pas pris. On a fait des excellents matchs, hein, il faut s'y reconnaître. Hein. J'entends, on a joué contre Zug une fois à la maison, je crois qu'il voyait pas le puck pendant deux tiers. On jouait un très très bon hockey. Et puis tout ça, d'un match à l'autre, ça pouvait s'estomper. Donc on savait pas à quel type d'équipe, avant un match, on pouvait s'attendre et à quel niveau de jeu on pouvait jouer. Et ça, c'est un peu ce qu'on a vécu toute la saison, c'est yo-yo, du haut, des bas. On a un match contre Berne qu'on gagne 4-0, on va à Berne, on prend 5-0, on ne voit pas le puck. Je veux dire, on a eu plein de choses comme ça, avec pratiquement la même équipe, qui nous ont fait extrêmement mal, mais qui nous ont aussi empêchés de prendre certaines décisions, parce que d'un match à l'autre, le niveau était excellent, puis le match d'après, il était mauvais. Donc, on n'avait pas une continuité dans la médiocrité, heureusement.
Ça veut dire que concrètement, vous auriez peut-être pu activer, pour ainsi dire, le coup près un poil plus vite ?
Mais par exemple, oui, j'entends, je veux dire, si on parle du coach, là, hein, évidemment, hein, je veux dire, un coach qui n'a jamais son équipe au complet, et puis quand il a certains étrangers qui arrivent ou certains joueurs qui reviennent de blessure et qui fait des résultats qui sont probants avec un spectacle qui tient la route, c'est très compliqué de lui dire « écoute, il y a quelque chose qui ne joue pas ». Par contre, on a remarqué que quand ils étaient tous là, notamment au play-out, où on devait là faire quelque chose parce qu'on avait l'équipe entière à disposition... Eh bien, on était médiocre pendant tous ces play-outs. Donc, c'est ça qui a fait qu'on a engagé le coup près.
Tu as dit à un moment donné qu'on ne savait pas trop à quel HC Ajoie on allait voir avant certains matchs. Il manquait un petit peu d'identité à cette équipe, peut-être de caractère aussi.
Oui, certainement. Certainement qu'on a eu un capitaine qui était blessé longtemps, qui n'était pas dans le vestiaire, un autre qui l'a remplacé. Est-ce que l'équipe était suffisamment soudée ? De l'extérieur, dans ce qu'on nous dit à nous, dirigeants, ce n'était pas une catastrophe, tout allait bien. Entre guillemets, dans le meilleur des mondes. Et puis, les résultats étaient là, mais en dents de scie, quoi.
Un mot qui a été utilisé souvent par les joueurs, par le staff, par Julien aussi durant la saison, c'est « petit détail ». Certes, il y a eu des défaites, mais il y a eu des bonnes performances, comme tu le dis. Mais quand on ressasse toujours que c'est des petits détails qui font la différence, voilà, on n'a pas toujours envie de le croire non plus. C'est quand même plus que des petits détails actuellement sur cette équipe-là, qui était sur le papier la meilleure qu'on a eue depuis 5 ans maintenant. Il a manqué autre chose que juste petits détails, ou bien ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il a manqué beaucoup d'autres choses, parce que je sais pas de quoi, à quoi ça tient. Il a manqué également de motivation dans ces play-out, alors qu'on rencontre l'équipe et puis ils sont cool, tout va bien, ils sont prêts, etc. Et puis on arrive sur la glace où on est complètement tétanisé et puis on patine pas comme on doit patiner. Et ça, c'est compliqué de dire d'où ça vient. Évidemment, ben, y a un mentor là-dedans, c'est le coach qui doit faire en sorte que les joueurs soient prêts pour les échéances qui sont prévues. Et puis, s'il n'y arrive pas, ben, ma foi, on change.
Mais c'est l'accumulation de petits détails. C'est vrai que finalement, la différence entre la victoire et la défaite, elle tient des fois à pas grand-chose. Hein. Il suffit un peu plus de confiance. Mais c'est cette accumulation de détails. Donc, les blessés en début de saison... des choix très discutables du coach déjà début de saison, qu'on a déjà parlé avec les deux top scorers mis dans les tribunes. La gestion humaine semble quand même un peu limite là derrière. Et puis après, ben, la confiance s'érode, les défaites arrivent. Et puis comme le dit Patrick, effectivement, on n'était jamais très loin d'accrocher des victoires, mais on semblait chaque fois jouer pour pas perdre plutôt que gagner, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la saison.
Sur la gestion humaine, Patrick, t'as des échos du vestiaire, des choses comme ça, des éléments qui te font dire qu'effectivement, c'était pas toujours optimal?
Non, justement, on n'a pas trop d'échos. Les échos, on les avait plutôt en Swiss League, quand on allait plus souvent dans le vestiaire en tant que dirigeant. Mais aujourd'hui, il y a un staff professionnel qui doit gérer ce genre de problème et qui doit en rendre compte à la direction. Mais moi, j'allais souvent boire mon café avec eux le samedi matin. Ouais, j'ai pas trouvé des gars abattus. Ils étaient tous positifs. Du coach jusqu'au gardien remplaçant. Donc, il y a rien qui me semblait qu'il y avait péril dans la demeure.
Méthode Coué un peu tout le long de la saison. Hein. On a essayé de se persuader que tout allait bien et qu'on allait pouvoir... accrocher les victoires, on l'a dit plusieurs fois, je crois que Julien, autant le coach dans les interviews, le disait, on est sur le bon chemin, mais le chemin finalement on l'a jamais trouvé. La méthode Coué, elle était un exemple, c'est Damiano Ciaccio, hein, qui était dans les tribunes quand même un bon moment de la saison, quand il y a eu 5 gardiens sous contrat, puis finalement lui il est resté aussi positif, puis qu'il est revenu, il a fait le job. Mais voilà, des fois la positivité des joueurs suffit pas non plus pour renverser des montagnes.
Ouais, puis quand on revoit cette saison 2025-2026, le point de départ, par exemple, ça peut être aussi la campagne des transferts. On remarque après coup que cette campagne des transferts, il y a une année, n'était pas forcément réussie. Hein. On voit l'ajout des mercenaires, c'était Niklas Freeman, Fred Gauthier, ils ont pas répondu présent. Et au niveau des joueurs suisses, on a vu Jonas Berthoud qui s'est mis en évidence, Kiki Motte à un certain moment, peut-être Jérémy Vic, mais voilà, ça s'arrête là. Ce HCA, pour progresser, a besoin aussi de plus d'additions de ce niveau-là.
C'est vrai qu'on a souvent parlé de beaucoup de profondeur, parce qu'en termes de nombre, il y avait largement et très largement même ce qu'il fallait. On a été plombé par les blessures, certes, mais c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte qu'en matière de profondeur qualitative, pour ainsi dire, on a longtemps cherché, et malheureusement, pas dire jamais trouvé, mais rarement trouvé les bons automatismes. Des joueurs comme Robin aussi était un très bon exemple, je trouve. Il commence la saison en fanfare, il s'estompe un peu, blessé, revient, pas trop mal, mais jamais franchi ce cap. Et puis ils sont trop actuellement à être un petit peu trop forts pour la Swiss League, mais pas assez forts peut-être pour la National League. Et puis c'est peut-être là qu'il faudra trouver effectivement un ajustement. Maintenant, depuis l'extérieur, Patrick, on a l'impression qu'on a vu quand même une saison avec un ras-le-bol du public comme jamais ou très rarement dernièrement on l'avait vécu, avec ses sifflets, etc. Est-ce que toi tu l'as ressenti aussi comme ça? Est-ce que ça se ressent dans les chiffres typiquement par exemple ou dans ce genre de choses-là?
Oui, bien sûr, mais avant d'être dirigeant, on est aussi supporter, donc la frustration, on l'a autant que nos fans et que nos sponsors et que tout le monde. Et puis, il y a des fois, on a envie d'exploser. Ça, c'est clair. J'entends maintenant, c'est sûr qu'on a un chiffre d'affaires qui est en baisse par rapport à la saison passée, pour différentes raisons. Parce qu'on a fait, un, parce qu'on n'a pas bien joué. Deux, parce qu'on a eu aussi plus de matchs le mardi. Puis le mardi, on sait que les affluences sont quand même en régression d'une vingtaine, voire 30% selon les périodes. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué que la saison passée. Mais je veux dire, il faut à la fin rester positif. Il faut aussi savoir que quand on parle de manque de profondeur, notre budget, il est quand même relativement limité par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et c'est là qu'on doit peut-être, qu'on doit nous, dirigeants, intervenir et puis essayer de trouver la solution pour avoir un budget qui soit plus important au niveau du contingent de la première équipe.
Puis tu parles argent, il y a une pression actuelle ou il y a eu une pression ces dernières semaines de la part des sponsors par rapport aux résultats ?
Non. Non, absolument pas. Non, je crois que les sponsors, ils sont, tous nos sponsors sont, je parle des gros sponsors, évidemment, hein, je suis pas dans le détail puisqu'on a plus que 300 sponsors globalement parlant, sur l'ensemble du club. Mais, nos sponsors, je dirais, principaux, comprennent la situation. J'entends, ils savent très bien que, à la limite, on est chanceux dans une région comme la nôtre d'avoir une équipe en National League, d'avoir une patinoire qui répond aux normes de la National League. On a vu, on voit Sierre, j'entends, je dis, ils peuvent pas monter, c'est des questions d'infrastructure. Et puis, il y en a d'autres aussi, hein, j'entends. Donc, on est là, on a la chance d'être là. Il faut qu'on travaille là-dessus et puis qu'on continue, puis qu'on progresse, surtout qu'on progresse. Parce que je peux comprendre, hein, le ras-le-bol au bout de 5 ans de finir toujours dernier, c'est compliqué, quoi, j'entends. C'est une frustration de chacun. Et puis, quand on regarde les matchs, ben, on a toujours l'impression qu'on est, comme disait Yann, on est proche, mais on est loin à la fin.
Mais tu parles justement de budget, d'en mettre dans l'équipe. Le HAJO a encore une marge de manœuvre pour pouvoir aller chercher peut-être des joueurs qui coûtent plus cher que ce qu'on a actuellement.
Mais il n'a pas de marge de manœuvre, le HAJO. Il doit simplement aller les chercher, trouver la solution. La marge de manœuvre, aujourd'hui, on ne l'a pas. Il faut aller chercher la solution pour pouvoir engager 2 ou 3 joueurs d'un niveau supérieur à ce qu'on a aujourd'hui.
Quand on voit par exemple des équipes comme Langnau, comme Ambry, elles sont pas loin de nous en matière de budget. Il y a quand même un casting qui est peut-être aussi manqué du côté du HCA, de trop gros salaires payés par exemple à certains joueurs ou des joueurs qui, sur lesquels on a misé qui répondent pas aux attentes.
Bien sûr, ben on l'a vu, hein, cette saison. J'entends, il y a certains leaders dans l'équipe qu'on attendait beaucoup d'eux, qu'on n'a pas vu du tout, ou qu'on a vu sporadiquement un match par-ci, un match par-là. Donc ça, il faut essayer de l'éviter.
La bande du jeudi.
Puisqu'on parle d'individualité, on peut s'arrêter sur la traditionnelle rubrique des étoiles. Cette fois-ci, on ne va pas donner d'étoiles sur la fin de play-out qui nous semblait un petit peu insignifiante par rapport à la période que l'on vit et à ce maintien accroché grâce finalement au titre du HCCR. Si on cumule toutes les étoiles distribuées sur l'ensemble des podcasts depuis le début de la saison, on arrive au classement suivant et on se prononcera ensuite s'il reflète finalement ce qu'on a vu sur la glace. Le joueur le plus étoilé a été, sans trop de suspense, Anthony Onka. 13 étoiles distribuées par nous trois sur l'ensemble de la saison. Le deuxième élément, c'est Chacho, avec 9 étoiles. Le troisième élément, Philippe Michael DeVos, avec 8. Et puis, au quatrième et cinquième rang, on retrouve à égalité Bertou et Motet. Voilà pour les étoiles, en prenant en compte qu'il y a aussi une émission où on avait distribué davantage d'épines que d'étoiles. Mais voilà, le classement reflète quand même l'ensemble de la saison. Yann, Rafi, selon vous, c'est le reflet parfait ?
Oui, je crois qu'on est un petit peu juste. Moi, je suis surpris du nombre d'étoiles à Onka. 13 seulement, t'es sûr que t'as bien,
ouais, t'as, sûr, t'as ouais. bien fait ouais. le Il est souvent, mais il a été souvent un petit peu en complément de fidélité, une étoile.
Il a été, en tout cas, voilà, le plus régulier sur cet exercice. Et puis, il a souvent répondu présent, même si on aurait pu attendre un petit peu plus de lui dans cette dernière ligne droite. Mais Anthony Onka, ben voilà, on l'a dit puis on l'a redit, quoi, la chance que l'on a de pouvoir le voir évoluer sous les couleurs du HC Ajoie. Hein, il sera encore sous contrat la saison prochaine. Et puis ben voilà, c'est le patron de la défense. Et puis c'est plus que ça, quoi. Il a ce côté artiste, ce côté d'arriver à amener cette offensive, on l'a dit aussi, et puis à créer du jeu.
Ben Onka, c'est le hockey moderne, c'est le joueur type de hockey maintenant, mobile, technique, il patine beaucoup, il est partout. Ça cache aussi un petit peu ses lacunes défensives. Par moment, on lui a reproché des fois un peu de certaines largesses en défense, mais son activité incessante, c'est actuellement ce qu'on veut voir au hockey maintenant. Et puis, si vous regardez les finales National League ou la NHL, c'est ce qu'on a, c'est des joueurs mobiles, rapides, d'un jeu axé sur le patin. Puis, c'est ce qu'a manqué, moi, je trouve, globalement, au HAJO cette année, c'est qu'on a eu des joueurs, et puis un système de jeu qui se voulait beaucoup trop statique, où on n'allait pas chercher les joueurs. Et puis, même si on a des joueurs peut-être un peu moins bons, bah, de pouvoir patiner, bah, ça amène beaucoup de choses. Et puis, ça amène surtout du spectacle. Et puis les spectateurs, même s'il y a des défaites, ils veulent du spectacle. Et puis bah, Onka, il en donne. Et puis il fait plaisir à tout le monde. Ça a été la lumière un bon nombre de soirs. Je crois que quand on perd 3-0 fin du deuxième tiers, puis qu'en une minute, il arrive à nous donner l'espoir de pouvoir revenir en marquant un but fantastique et puis en faisant un jeu derrière le but incroyable. Ouais, Onka, tout au long de la saison, je crois que bah, il a été régulier et puis très bon. Et puis on est chanceux de l'avoir encore une saison de plus à Porrentruy.
Ouais, régularité, c'est le maître mot, je crois, le concernant. Et rarement un soir, on a pu se dire « Ah, mais c'est de sa faute » ou « Il n'a pas été au niveau qu'on l'attendait ». Évidemment qu'il n'a pas toujours été aussi bon qu'il ne peut l'être, mais ça, c'est normal sur une saison à presque 60 matchs. Mais quelle qualité chez ce joueur, effectivement. Son jeu vers l'avant aussi est particulièrement intéressant. Le petit, peut-être, entre guillemets, bémol qu'on pourrait lui trouver, c'est son manque de réalisme. Il y a beaucoup de shoots au but et il n'a pas beaucoup de buts marqués par rapport au nombre de shoots. C'est vrai que dans les angles de shoot qu'il prend, peut-être qu'il pourrait s'inspirer un petit peu de Reunanen, que je trouve vraiment très, très bon et très, très juste dans sa manière d'aborder les shoots. Mais c'est du détail par rapport à tout ce que ce gars peut amener et tout ce qui va encore nous amener. C'est un pur plaisir, évidemment, d'avoir un joueur comme ça. Et puis un talent défensif et offensif absolument incroyable. Pépite, Patrick.
Rien à dire sur vos commentaires, c'est tout à fait ça. Il faut même dire qu'on est chanceux d'avoir au HC Ajoie un joueur de ce niveau-là.
Il faut le verrouiller maintenant, parce que bah voilà, quoi, il lui reste une année de contrat, hein, on sait comment ça va, hein, il y aura peut-être déjà des bruits et des choses qui vont se passer déjà cet été pour la saison prochaine. Il faudra le verrouiller peut-être à moyen terme, c'est ça? C'est un objectif, j'imagine.
Oui, bien sûr, on en parle, et ça fait partie d'un ordre du jour.
Mais c'est vrai que beaucoup de monde se pose la question, mais pourquoi il a signé à Ajoie, pourquoi il reste là, avec le talent qu'il a, il pourrait aller dans n'importe quelle équipe National League, même peut-être faire le saut au Canada, mais c'est aussi la mentalité un peu hein, que ces Finlandais ont amené depuis qu'ils sont là. C'est des gens qui aiment le hockey puis qui aiment jouer. Je crois que quand on le voit sur la glace, c'est un feu follet. Puis il reste au HC Ajoie aussi parce qu'il sait qu'ici il a un public qui va le soutenir tout le temps. Les dirigeants certainement qu'ils soutiennent aussi. Et puis, mais il a surtout beaucoup de temps de jeu. Et puis lui, ce qui l'intéresse peut-être avant les millions ou le salaire, c'est vraiment jouer au hockey, s'améliorer et puis avoir du plaisir.
On passe aux deux étoiles. Elles sont pour Chacho, avec 9 étoiles quand même pour Damiano Chacho. Pourtant, il n'a pas joué de loin, pas l'ensemble de la saison, mais il est sorti assez régulièrement de notre chapeau étoilé.
C'est un poste clé, hein, gardien dans une équipe. On a eu beaucoup de changements, beaucoup de blessés, un peu d'espoir au début avec Pat Naud, qui est quelque part le futur du HC Ajoie, qu'on a signé, un espoir qui a fait un bon début de saison. Il se blesse, on a Benjamin Cohns qui se blesse aussi. Après, ouais, on a eu beaucoup de blessures, beaucoup de turnovers, pas un gardien qui a vraiment su s'imposer. Par la force des choses, quand il y a eu beaucoup de blessés, Chacho a dû prendre le lead puis enchaîner les matchs. Et puis il a répondu présent, donc c'est pour ça qu'on lui a mis autant d'étoiles durant la saison. Et puis c'est amplement mérité. Il a prouvé encore jusque dans les play-offs, jusqu'au dernier match, dernière minute, qu'on voit qu'il a encore du plaisir et puis qu'il a encore envie de jouer. Et puis ça sera peut-être une option encore pour le futur pour assurer, parce que bah, pour l'instant on a deux jeunes gardiens sous contrat et puis dont un qui va se remettre d'une opération.
Ouais, puis moi j'oublie pas son arrêt incroyable à Langnau, là ça résume un petit peu quelque part sa saison. Et puis je regardais les statistiques des gardiens cette saison, ils tournent tous aux alentours des 90%, c'est pas encore assez pour un club comme Ajoie, là, pour essayer d'avancer, il faut du 92, du 93%. Et puis ces gardiens l'ont fait par moment. Il y a eu des épisodes, je pense à Benji qui fait un gros match en début de saison, me semble-t-il, face à Berne, si je ne m'abuse. Après, Antoine Keller a eu sa période aussi et tout. Mais voilà, quoi, ça demande aussi plus de constance et le HC a vraiment besoin d'un top gardien s'il veut aussi progresser au niveau de la hiérarchie.
Chacho l'a été, ce top gardien, quand il a été aligné, c'est-à-dire quand il a pu enchaîner ses matchs ben voilà, malgré les blessures, ou plutôt grâce, à cause, en fonction des joueurs, bien sûr, des blessures, il a répondu présent. Moi, je trouve admirable son calme. Vraiment, il dégage beaucoup de sérénité. Je pense que ça aide aussi beaucoup la défense, qui est souvent ben voilà, menacée. Il y a beaucoup de pucks dans la zone défensive du HCA. Quand on a un gardien qui dégage autant de calme, avec une lecture du jeu telle qu'il a, aussi un jeu de canne absolument remarquable comme il l'a, je pense que ça fait beaucoup de bien sur l'ensemble de la défensive jurassienne. Et qu'est-ce qu'on peut être content de l'avoir eu cette saison, parce que sans lui, ça aurait été vraiment très très compliqué quand on voit tous les pépins qui ont été ceux du HCA durant l'exercice.
Oui, Damiano, c'est un gars d'expérience, quoi. J'entends, il a commencé sa carrière en National League, je crois, c'était à Langnau. Donc, il a vécu des play-outs pendant toute la période qu'il a été à Langnau. Il est allé à Ambry, il a vécu des play-outs pendant la période qu'il était à Ambry. Donc, c'est quelqu'un qui supporte la pression de ce genre d'événement de play-out, hein, parce qu'il y en a qui ne la supportent pas, on l'a vu sur la glace. Et lui, il l'a bien supporté, il a démontré qu'il était là. Oui, on peut lui donner ses étoiles sans souci.
Et on peut lui donner un contrat pour la saison prochaine ?
Alors ça va se discuter plus loin.
On passe à l'étoile, elle est pour Phil Michael DeVos, 8 étoiles. Je prends la parole peut-être en premier, on parlait de régularité, en voilà un autre modèle, je trouve, malgré effectivement tous les écueils qu'il a dû surmonter durant la saison. Tu l'as évoqué brièvement, Yann, avant, il a toujours répondu présent en bon leader du vestiaire, il a toujours ce coup de crosse où il faut depuis le slot, il a ce déplacement avec lequel, voilà, on sait que c'est le patinage, c'est pas sa plus grande force, il arrive à le compenser avec sa lecture du jeu, c'est le cerveau actuel de sa ligne, et puis il a une science de la passe, une science du jeu et de la lecture du jeu qui est largement au-dessus de la norme. Et avec tout ça, je pense qu'il a fait une grosse saison, malgré tous les aléas, malgré ses changements de ligne multiples. On sait que Phil, c'est aussi un gars qui aime bien les automatismes, il se trouve les yeux fermés avec Johnny. Il a dû s'acclimater finalement à différents rôles dans l'effectif du HCA Joie. Il a joué quand on lui a demandé. Il a pu un petit peu enchaîner. Quand il a commencé à enchaîner, c'est vraiment devenu hyper intéressant. Et puis encore en play-out, il répond présent. Donc là aussi, un gars sur lequel on peut compter et qui a fait largement, je trouve, son taf par rapport à l'importance qu'on lui a accordée.
Oui, tu dis que c'est le cerveau de sa ligne. Il a joué avec beaucoup de joueurs durant la saison aussi, donc il a toujours, dû s'adapter, se réadapter, se réinventer aussi. C'est un terme que Yann a aussi beaucoup utilisé durant ses émissions. Moi, je retiens aussi play-out, hein, où ça a été un des rares attaquants du HCA Joie à aller dans la zone de vérité, aller un petit peu là où ça fait mal. Et c'est là qu'il fallait aller. C'est dans ces moments-là aussi qu'on voit aussi un petit peu le caractère de certains joueurs. Il s'en sort avec trois réussites, hein, durant ses play-out en trois matchs. Il n'a pas joué le dernier au passage. Et puis, voilà, quoi. Phil et le HCA Joie, l'histoire continue.
Oui, c'est un gars qui est régulier, c'est un gars qui est intelligent. Je crois qu'il est intégré dans la région, il aime ce club. Et puis, il donne tout sur la glace à chaque match. Tu dis que ce n'est pas le meilleur patineur, mais moi, cette année, je l'ai trouvé super mobile. La saison après ses problèmes de dos, ça a été un peu compliqué, mais depuis 2 ans là maintenant, il est renouveau partout sur la glace. Il va travailler, il croche pour aller chercher des passes. Il est très très utile aussi en box play. Il a été très bon en attaque, mais il est très très bon aussi en box play. Il a été beaucoup utilisé, et puis l'année prochaine, il va nous faire du bien, on espère, avec cette licence suisse. Et puis ouais, c'est un gars sur qui on peut compter, Wacha Joie. Et puis c'est un peu c'est le genre de gars qu'on a besoin dans le vestiaire aussi, si on veut amener des autres joueurs pour pouvoir donner une âme, puis une envie de s'en sortir au HCA Joie.
Patrick, on parle de licence suisse. Est-ce qu'on a la garantie aujourd'hui que Phil sera un joueur à passeport suisse à la reprise?
Alors, on a la chance d'avoir Yann Voyat, distributeur de permis, qui est là. Donc, si lui, il dit qu'il sera suisse l'année prochaine, c'est la vérité. Je lui fais confiance. Donc, effectivement, Phil, un contrat encore pour la saison prochaine en tant que joueur suisse.
Moi, j'ai mis du conditionnel. Hein. Moi, je ne suis pas encore à Berne à tonner. Moi, je vais faire son passeport dès qu'il aura sa nationalité. J'ai hâte de lui faire. Je vais lui faire en personne s'il le faut avant le mois d'août. Mais on va quand même attendre la décision de Berne qui devrait tomber, on l'espère, bientôt. Ouais.
Parce que tu dis que Phil DeVos, c'est un contrat en tant que joueur suisse. Parce que s'il n'avait pas la nationalité suisse, il n'aurait pas forcément un contrat la saison prochaine.
Non, il n'aurait pas de contrat, okay, à l'heure actuelle.
On peut enchaîner avec les épines. On a puni par une épine par émission, sauf une fois où Rafi en a distribué 6. Néanmoins, il y a un joueur qui, malheureusement, on va dire ça comme ça, ressort du lot avec ses 5 épines. C'est Pierre-Édouard Belmar qui devance à ce jeu Nettinen, 3 épines, Freeman et le staff du HC Ajoie en ont 2. Voilà pour le podium des épines avec un Pierre-Édouard Belmar qui, c'est vrai que nous a pas séduit, et ça peut dire tout au long de cette saison.
Ah bah c'est une des grosses déceptions de cet hiver, quoi. On a presque l'impression de dire que pour lui c'était la saison de trop, hormis sa parenthèse olympique. Voilà quoi, le HCA a besoin de vrais renforts au niveau des mercenaires, et puis il a été souvent poussif et puis peu impactant dans les offensives du HC Ajoie. Ouais, c'est dommage.
Ouais, bah quand il est arrivé de NHL puis qu'on avait pu signer ce joueur là, tout le monde était heureux d'avoir un tel pédigré au HC Ajoie. La première saison, moi j'ai souvent pris en exemple, puis aussi par rapport aux jeunes pour montrer, parce que sur la glace il faisait quasiment tout juste, les petits détails, conservation de puck, la vision de jeu, le travail, il faisait quasiment tout juste. Et puis cette année, comme tu l'as dit Rafi, on a l'impression de la saison de trop. Tout ce qu'il faisait juste l'année passée, cette année ça marchait pas, ça allait pas. Il était beaucoup par terre, beaucoup à perdre des pucks. Et puis après, je pense qu'il a été aussi surutilisé par le coach. À un moment donné, il fallait prendre la décision. Mais après, voilà, qu'on a Monsieur Belmar qui a une carrière comme il a, on n'a pas non plus envie de le mettre dans les tribunes à chaque match. Puis je crois d'ailleurs que si on reprend les compositions d'équipe, il n'a pas été une fois surnuméraire cette saison. Je crois qu'il a été malade.
À chaque fois, il était annoncé malade, c'est ça ? Oui, c'est possible.
Je crois qu'il était malade à chaque fois, ou blessé, mais...
Peut-être tout à la fin ? Je ne sais plus. Petit doute sur la fin, mais c'est bien possible.
Je crois qu'au play-out, il était malade, annoncé malade, en tout cas. Mais ouais, il avait comme objectif, puis comme rêve, de faire ses Jeux Olympiques. Il s'est peut-être servi un petit peu du HC Ajoie pour y arriver, puis y aller. Puis bah, le HC Ajoie a payé un petit peu son envie d'aller aux Jeux Olympiques, parce qu'on a déployé, donné beaucoup trop de temps de glace à ce joueur.
Et on parle d'une position importante pour une équipe de National League, c'est celle de centre, en principe, du premier bloc. Donc ça doit être aussi l'élément moteur, aussi, quelque part, des offensives. Et puis, ben non, il a pas répondu présent comme on l'aurait souhaité.
Il y a un élément qui est hyper important, à mon sens, là-dedans, c'est que quand il est arrivé de NHL, avec une prépa de NHL, un bagage physique de NHL. Il s'est retrouvé en National League où c'est pas le même rythme non plus, où il n'y a pas la même fréquence d'efforts, etc. Et puis, il n'y a qu'une prépa d'été de National League pour un joueur qui a ensuite été blessé. C'est peut-être pas anodin non plus d'ailleurs qu'il était blessé. On l'a souvent aussi trouvé physiquement quand même un petit peu en retard dans la difficulté, en tout cas bien davantage que lors de son arrivée à Porrentruy. Et puis, ben voilà, l'histoire ne dit pas, effectivement, s'il s'est un petit peu préservé par moment, par crainte de ne pas participer à son rêve d'enfant qu'étaient les JO. Mais force est de constater que, tant d'un point de vue statistique que d'un point de vue de l'attitude, j'ai trouvé vraiment très, très insuffisant. Et puis, ça n'a clairement pas aidé le HCA, notamment Rafi, par rapport à ce que tu dis, et l'importance que ce cerveau de l'équipe, comme on peut appeler le centre de première ligne, peut et doit avoir.
Absolument d'accord avec vous tous. C'est l'année de trop pour Pierre-Édouard. En plus de ça, c'est un gars qui se plaint jamais, donc il peut être blessé, avoir une main cassée, il va pas le dire, et puis il va continuer à jouer. Je crois qu'il a un petit problème à ce niveau-là, et puis ça l'a plutôt mis dans une situation compliquée pour la suite que de s'être soigné pendant une dizaine de jours, mais ça, c'est pas la mentalité de ce genre de joueur. Nous, on attendait de lui, effectivement, au centre d'un premier bloc. On l'a vu l'année passée, en fin de saison, on l'a vu dans les play-outs et tout. C'est un gars qui devait nous amener nettement plus que ce qu'il a amené. Le risque a été pris de le signer alors qu'il avait passé 40 ans. Ben, on constate que voilà, ça c'est un flop de notre part.
Mais c'était légitime, hein. Il y a une année de le prolonger, c'était légitime, hein, vu la saison qu'il avait disputée.
Ouais, effectivement, moi, on ne va pas reprocher au HC Ajoie d'avoir re-signé Pierre-Édouard Belmar encore une année. Hein. Je crois que contre Viège, il a fait le taf pour nous sauver en play-out. Puis durant la saison passée, comme je l'ai dit, il a été bon, il a été... C'était vraiment un très bon joueur quand il était là l'année passée. Puis cette année, bon, on l'a juste pas reconnu. Et puis,
un but en 37 matchs.
Ouais, et puis bah, il a eu souvent les clés du powerplay, donc il a un peu plombé notre powerplay. Il était avec Nettinen souvent. Nettinen, sa meilleure séquence, c'est quand il était aligné avec Hazen et De Vos. Là, il enchaînait les buts et les passes. Mais quand il était avec Belmar, les joueurs à côté de lui...
On en souffert aussi.
On en souffert également.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Il y a eu quand même plusieurs erreurs de casting. On va te parler de celle de Belmar. Il y en a eu d'autres. On ne va pas toutes les lister ici. Avec des performances en dessous des attentes. Ça, je pense, c'est un fait. Est-ce que la direction sportive, elle est aujourd'hui remise en question par la direction du club tout court?
Alors, on peut tout remettre en question, hein, c'est clair. J'entends, il y a pas d'acquis, hein. Mais c'est surtout peut-être à nous aussi de donner une direction un petit peu différente que celle qu'on a prise l'année passée, d'aller chercher des joueurs qui ont un certain âge et qui ont un passé glorieux, mais qui sont au bout du rouleau, et puis d'aller plutôt trouver des jeunes qui ont faim, puis qui veulent travailler, et puis les entourer avec des étrangers qui tiennent la route, et puis qui les motivent. On a un exemple, c'est Berthou, je veux dire, voilà, et qui vient de Swiss League. Il a avec lui un Honka, toute une équipe de défenseurs qui sont quand même des gars qui ont la tête sur les épaules, et puis on le voit progresser. Et on doit être beaucoup plus attentif là-dessus, puis aller chercher ce genre de joueurs-là aussi, à la place de certains SB, entre guillemets.
Donc, tu es en train de nous dire que dans le mercato cet été, on va voir moins de joueurs de plus de 30 ans rejoindre le HC Ajoie. C'est la volonté.
La volonté est de rajeunir l'équipe, mais on ne peut pas rajeunir une équipe à ce niveau-là sans avoir des joueurs d'expérience. Ça, c'est clair. Sinon, on va directement au casse-pipe, donc il en faudra quand même quelques-uns de ces joueurs d'expérience.
Parmi eux, il y en a plusieurs qui sont jurassiens, ces joueurs d'expérience. Hein, on pense à Schmutz, on pense à Pouilly et d'autres qui sont en fin de contrat, Kons également. On doit s'attendre aussi avec ces joueurs-là au grand ménage. Il n'y aura pas forcément d'attention portée au fait qu'ils soient de notre région.
Mais je crois que... Bon, faut pas oublier que le HC Ajoie, je veux dire, il a été, par rapport à certains autres clubs, depuis qu'on est arrivé en National League, il a été très gentil, et puis très beaucoup trop gentil, entre guillemets, parce que on veut conserver des gens qui sont de la région, on veut conserver ceci, mais à la fin, on a toujours la même équipe, puis à la fin, on est toujours dernier. Donc à un moment donné, il faut prendre les dispositions pour dire, ben ma foi... tant pis, toi tu n'as pas ta place ici, ben, va jouer dans une ligue où t'auras plus de temps de jeu, où tu pourras mieux jouer, etc., où tu vas t'épanouir, et puis nous on va chercher une autre catégorie de joueurs. Et
ça, tu parles aussi justement de temps de jeu, puis de rajeunir les équipes. Ben, le Bienne a fait ce pari-là aussi, en rajeunissant beaucoup son contingent. On voit des gars comme Attilo Biasca, Jamiro Reber à Fribourg qui sont très jeunes. C'est vrai que donner la chance aux jeunes, c'est sûrement la façon pour la Chargeoise de progresser. Tu parlais de Langnau avant, qui était un exemple à suivre aussi pour la Chargeoise. Oui, ils ont aussi cherché des jeunes, ils ont les fait progresser. Mais voilà, il faut des bons étrangers à côté, il faut quand même des gars d'expérience pour les entourer. Et puis il faudra trouver la perle rare comme coach aussi, qui donne confiance à ces jeunes. Parce que cette année, on avait l'impression que les jeunes du HC Ajoie, on parlait de Louis Robin qui était pris en équipe suisse dans le cadre d'été pour l'élargir. Cette année, je ne suis pas sûr qu'il soit repris parce que lui, il n'a pas progressé. Gaël Christ, qui était très bon quand il est arrivé, pour moi, il a stagné, voire par moments... déjoué, et puis il faudra trouver aussi un chef d'orchestre qui donne à ces jeunes la confiance, quitte qu'on sait, il y aura des erreurs, Bienne l'a vécu en début de saison, des matchs on va en perdre si on fait jouer des jeunes, parce qu'ils vont perdre, des pucks peut-être bêtement, faire des erreurs de jeunesse, mais on doit passer par là aussi pour progresser, puis passer un step dans le classement.
C'est vrai que les jeunes aussi sont peut-être moins regardants de notre région. C'est aussi un argument qui sort souvent, Patrick Oudal, du budget. C'est le fait que c'est dur d'attirer des joueurs dans le Jura. Alors on pense évidemment à des trentenaires installés en région zurichoise, c'est peut-être plus compliqué. Ou des gens de 25-30 ans qui sont bien installés que des tout jeunes qui peuvent avoir leur première chance dans cette catégorie de jeu-là.
Oui, tout à fait. C'est un peu notre objectif. Mais il faudra quand même des trentenaires pour pouvoir équilibrer un peu l'équipe. Et effectivement, Yann, ce que dit Yann est juste. Langnau le fait maintenant régulièrement chaque année. Ils sont sortis de cette zone rouge. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi, pendant une dizaine d'années, ils ont fait les play-outs. Hein. Faut pas oublier ça non plus. Hein. On dit à joie, ça fait 5 ans que vous êtes dernier, mais je veux dire, il y a 3-4 équipes là-dedans, dont notamment Rappi, qui s'en est bien sorti, qui a réussi à faire le saut. Maintenant, c'est Langnau. Et puis, on a quand même derrière toujours Ambry qui est dans les play-out ou à peine dans les play-in. Donc, c'est compliqué. Alors, essayons de trouver le bon chemin pour pouvoir progresser et puis arrêter de penser qu'on sera meilleur l'année d'après avec la même équipe de l'année d'avant.
Au chapitre solution, hormis celle justement d'aller convaincre peut-être de plus jeunes joueurs ou des profils différents, l'autre solution, ce serait d'augmenter le budget. Ça, c'est une piste qui est crédible à l'heure actuelle.
C'est une piste qui est compliquée, c'est clair. Mais je veux dire, il ne faudra pas qu'on dise non à un joueur qui pourrait justement faire l'affaire pour entourer ces jeunes, et puis pour quelques dizaines de milliers de francs, dire non, on peut pas se le payer, il faudra faire le sacrifice et trouver des solutions pour pouvoir l'amener chez nous.
Quand on voit des annonces récentes que Berne va certainement se séparer de son capitaine Ramon Untersander, de gars comme Joël Vermine, on voit quand même qu'il y aura des mouvements. Hein. La Ligue, elle est passée aussi de 12 à 14 en peu d'années. On s'est souvent plaint que le marché suisse était très sec. Hein. Chaque équipe gardait un peu ses joueurs. Et puis là, on voit quand même à gauche, à droite, que des joueurs d'expérience sont libérés par les clubs parce qu'on fait de la place pour des jeunes. Et puis, il aura peut-être fallu attendre aussi ça pour le HAJOA, peut-être pour pouvoir les chercher. Un joueur d'expérience avec un niveau à calibre supérieur. Mais faut s'y remettre que dans l'idée que quand le HAJOA est monté, la Ligue a également évolué. Et puis, c'était très compliqué pour aller chercher des joueurs suisses de calibre supérieur.
Hein. En matière d'étrangers, Patrick, il y a des profils qui sortent déjà du lot ?
Oui, il y a des profils qui sortent du lot, bien sûr. Mais ça va être annoncé, je pense, d'ici peut-être fin du mois, quelque chose comme ça.
Il y a donc des ententes qui ont déjà été signées avec des joueurs étrangers, c'est ça ?
Il y a des ententes qui sont en cours et des ententes qui sont signées.
Mais le niveau étranger, on peut reprocher à Julien Vauclair puis au staff technique beaucoup de choses, mais je pense quand même que si on doit avoir les étrangers, le meilleur rapport qualité-prix d'étrangers en National League, oui, il y a eu des erreurs comme Freeman, erreur. C'est un grand mot parce que Freeman, sur le papier, c'est quand même champion olympique, champion du monde, capitaine de son équipe en Finlande qui sortait d'une super saison. Il n'a jamais pu s'adapter aux Jeux suisses. Mais sinon, aller chercher des gars comme Nettinen, Anka, même là, en fin de saison,
Turkulainen,
Reunanen, que j'ai trouvé très bon. Le HAJOA a quand même signé des grands coups au niveau des étrangers.
Mais il en faut 6. C'est ça.
Mais Patrick a dit qu'il y aura des annonces bientôt.
Il en faut 6, il y en aura en tout cas 6. Non, mais ce que dit Yann, c'est aussi, il faut aussi le signaler, quand on est monté en National League, puis qu'on cherche des étrangers, mais il n'y a personne qui voulait venir au HC Ajoa. Et aujourd'hui, on a quand même des étrangers d'un certain niveau qui pourraient jouer pratiquement dans n'importe quel club suisse de National League qui sont au HC Ajoa. Ils ne sont pas en dessous des autres. Ils ont peut-être été mal utilisés, mais ils ne sont pas en dessous des autres. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que sur l'ensemble du hockey européen, le HC Ajoa, il a un certain aura. Et puis les gens qui viennent jouer chez nous ont confiance au club. Ne détruisons pas tout en une saison, quoi. Je veux dire, il y a quand même des progrès qui ont été faits à ce niveau-là.
Et puis on parle, justement, il nous faut 6 étrangers sur la glace, mais les dernières années, on avait plutôt signé aussi un 7e étranger assez rapidement pour pouvoir, à cause des blessures. Le HAJOA part plutôt avec 6 étrangers en début de saison, ou plutôt prendre une petite couverture avec un 7e.
Je pense qu'il faudra quand même s'assurer quelque part un 7e étranger. Parce qu'on l'a vu, hein, on l'a vu en début de saison. Je crois qu'on jouait avec 4 étrangers. Donc c'est, pour nous, c'est le pire qui pourrait de nouveau nous arriver. C'est de commencer la saison, avec 4 blessés, 4 étrangers blessés. Alors là, ce serait une belle catastrophe. L'histoire recommence, hein.
Alors, je fais mes comptes. Ça fait là pour l'instant 4 étrangers sous contrat. Vous en voulez 7. Donc il en manque encore 3. C'est ça.
C'est ça, oui.
Ouais, ouais. Et puis, il y aura avec 2 défenseurs étrangers ou bien un seul défenseur étranger, c'est encore ouvert.
C'est encore ouvert, mais dans la mesure du possible, ça pourrait être deux défenseurs étrangers.
Dans l'œil de la vouivre.
On ne va pas arrêter la coutume en si bon chemin, même pour cette dernière émission de la saison. On finit donc par un petit quiz. 5 questions pour vous, messieurs. Elles concernent toute la saison du HC Ajoie. Et une dernière pour les auditeurs qui nous écoutent, avec toujours à la clé ce petit cadeau estampillé Bande du Jeudi à remporter. La première question, elle ressemble fortement à la deuxième, vous verrez. Qui est le premier buteur de la saison du HCA ? Se remémorer le mois de septembre.
Moi, je dirais Philippe Michael Devos à Genève.
C'est à Genève, mais ce n'est pas le bon joueur.
Alors, ouais.
Hazen.
Louis Robin.
Tout juste. Louis Robin, effectivement.
Tir croisé.
Ah oui,
débordant.
Ouais, ouais, c'est juste.
Puis là, on s'était dit, ah, il repart comme la fin de saison. Ouais. Et puis, on va avoir un super Louis Robin durant la saison. Mais malheureusement, les blessures l'ont un petit peu freiné durant la saison.
Je vous l'ai dit, la deuxième, elle ressemble à la première, mais elle est plus contemporaine, celle-là, qui est le dernier buteur du HCA.
Phil ? À Ambry.
C'est à Ambry, mais ce n'est pas Phil. Phil, le lieu, et puis les autres, la personne, c'est un peu ça.
Wow.
C'est un étranger.
Ambry, Nettinen ?
Oui, c'est Nettinen, effectivement, qui marque le dernier but du HCA. C'était bien lors de l'acte 3 à Ambry.
Il aura fallu attendre le dernier quiz pour que je sois bon.
La troisième question, c'est la plus facile.
Ah.
Qui est le joueur le plus pénalisé du HCA cette saison ?
Ouais, c'est facile, oh, Patrick.
Valentin
Pilet. Ouais. 80 minutes de pénalité, pas très loin devant Yannick Fischer, qui a une septantaine, j'ai plus le chiffre exact en tête.
Et Yannick Fischer, hein, comme tu l'as dit si joliment, Yann, voilà, qui a terminé sa saison par une bagarre. Il a eu cette magnifique sortie.
Il se sera battu jusqu'à la dernière seconde.
Exactement. On parle gardien à présent, on a touché un mot, Rafi. Tu as peut-être un petit avantage du coup, pour t'appuyer les stats. Qui est le meilleur gardien de la saison en termes de pourcentage d'arrêt ? On ne regarde pas les matchs, le nombre de matchs, simplement le pourcentage d'arrêt. Tu l'as, Rafi ?
Oui, je l'ai.
Allez, il y en a 4. Au pif.
Benji.
Patrick.
Keller.
Patnaud. Ça se joue à très peu de choses, tu l'as aussi dit avant. 91% pour Patnaud en 7 matchs. 90,7% en 9 matchs pour Benji. 89,9% en 16 matchs pour Keller et puis 89,8% pour Tchatcho en 29 matchs, qui a donc joué la grande majorité des parties avec le HCA. Dernière question, c'est qui est le meilleur buteur de la saison du HCA, saison régulière et play-out compris ?
Bah, buteur, c'est Nettinen.
Tout le monde d'accord ?
Oui, j'aurais dit Nettinen aussi, bien sûr.
Tout juste, 21 buts marqués pour Julius Nettinen. C'était plus facile que d'habitude, hein ?
Ouais, parce que j'ai réussi à répondre aujourd'hui.
Il a marqué beaucoup de buts, c'est pour ça que c'était facile.
Ceux qui ont dépassé les 10 buts, je sais plus si Phil a dépassé les 10 buts avec les 3 en play-out.
Ouais, ça fait 12, ouais, il est.
Ouais, il a
plus, dépassé les 10, mais ouais, il doit avoir Nettinen, Hazen, Mottet et puis Phil qui ont dépassé les 10 goals cette saison au Wachage. Ouais, donc il en faudrait un ou deux de plus quand même.
Et puis pour la dernière question qui est pour vous, chers auditeurs, on garde l'offensive du HCA et on vous demande qui est le joueur qui a le plus tiré au but cette saison. Vos réponses sont envoyées par mail à l'adresse bdj@lqj.ch ou alors via le formulaire disponible sur rfj.ch. La semaine passée, c'est Baptiste de Porrentruy qui a gagné notre concours il y a 2 semaines plus tôt. Et concours remporté donc par Baptiste qui gagne un cadeau estampillé Bande du Jeudi. Notre dernier invité, Yannick Fischer, a bel et bien disputé son premier match dans l'élite lors de la saison 2008-2009. Bravo à toi, Baptiste. On arrive donc au terme de cette émission. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir participé.
Merci à vous.
C'est aussi ainsi que se termine notre saison de la Bande du Jeudi. Merci messieurs, merci Rafi, merci Yann.
C'était toujours avec le même plaisir. On a essayé d'être le plus objectif, le plus correct, en étant toujours pertinent, j'espère. Ouais.
Bah, moi, j'aimerais vous remercier les deux d'avoir accueilli parmi vous durant cette saison et puis souhaiter un bel été aux supporters du HCA Ajoie, de faire une bonne préparation puis de revenir rebooster pour encourager le HCA Ajoie au mois d'août puis au mois de septembre pour une saison qu'on espère florissante.
On l'espère, effectivement. Grand plaisir aussi pour moi d'avoir partagé ces instants avec vous et avec vous tous qui nous écoutez toutes les 2 semaines, pour être précis, avec toujours autant de fidélité. On rappelle que tous nos podcasts sont à retrouver sur rfj.ch et lqj.ch ainsi que sur les différentes plateformes de streaming. À tout bientôt.
Du jeudi. La bande du jeudi.